chapitre 30. Aéroport de Bakou, Azerbaïdjan. Le Tupolev Tu-204 commençait sa descente sur Bakou. Dans l'avion, Cortés appuyait avec énervement sur les touches de son téléphone portable. Assis à sa droite, côté hublot, Zeytin penchait la tête pour observer les côtes de la mer Caspienne entre les épais nuages des raffineries de la zone portuaire. Perdu dans ses pensées. L'avion venait de survoler la Géorgie et une foule de sales souvenirs semblait encore flotter dans l'air. Zeytin toucha sa cicatrice. Des souvenirs vieux d'une vingtaine d'années. Il dirigeait alors un petit commando cosmopolite en Ossétie du Sud pour le compte de l'armée géorgienne. Du classique. Ils avaient carte blanche pour refroidir les ardeurs indépendantistes. Les morts chez les Ossètes, en 1991, se comptèrent par milliers. Son commando était intervenu dans un petit village, mais les hommes avaient déjà fui dans le Caucase. Le viol des femmes faisait partie des avantages en nature. Les caucasiennes étaient jolies, fières et élégantes, mais lui avait préféré la seule qu'il avait défiée du regard. Une matrone de plus de 100 kilos retranchée dans sa cuisine derrière ses 8 enfants. Sa robe de paysanne s'ouvrait sur 2 seins énormes. Une belle femme, forte, sauvage, comme il les adorait. Ses hommes avaient éloigné les gosses, ils l'avaient prise sur la table de la cuisine. La routine. Mais quelque chose avait dérapé cette fois-là. Alors qu'il pesait sur elle de tout son poids, le pantalon sur les chevilles, la femme avait trouvé le moyen de le mordre. Elle avait planté sa mâchoire en haut de son crâne et ne l'avait pas lâché avant qu'un morceau de chair long comme un steak ne cède entre ses dents. Zeytin s'était effondré en hurlant sur la terre battue de la cuisine. La femme avait continué de le frapper avec tout ce qu'elle trouvait, casseroles, plaques de fer, cruches de cuivre. Ses hommes étaient intervenus juste avant qu'elle ne lui tranche la gorge avec un hachoir. Hilar, forcément. Leur capitaine battu à mort par une matrone à gros seins, comme un vulgaire mari qui rentre en ayant bu un verre de trop. À Tbilissi, des ports de médecins géorgiens l'avaient recousu. Dans le commando, des connards de Turcs l'avaient surnommé Zeytin. Zeytin signifiait Olivier en turc. D'après ses cons, la marque des points de suture sur sa figure ressemblait à un rameau. Zeytin, Olivier. Le comble, le symbole de la paix. Celui qui figurait sur le drapeau de l'ONU. Cortés, à côté, continuait de s'énerver sur son téléphone portable. Zeytin, à l'époque, était loin de se douter qu'il se retrouverait quelques années plus tard sous les ordres d'un type dont l'obsession aurait un rapport direct avec le rameau d'Olivier, celui rapporté dans son bec par la colombe. Un type persuadé qu'il y avait une montagne de fric à se faire en s'intéressant à l'arche de Noé. « Tu captes ?» demanda nerveusement Cortés. Zeytin se pencha et alluma son téléphone portable. « Non, toujours pas. » Cortés étouffa un juron. Zeytin hésita un instant. Il avait beau connaître Cortés, il se méfiait de ses réactions incontrôlables. « On sera à Bakou dans un quart d'heure », finit par avancer Zeytin. « Au Nakhitchevan 2 heures plus tard. Ça nous fera du bien à tous de retrouver le palais d'Ishak Pacha. » Cortés tourna vers son lieutenant un regard dédaigneux. Zeytin pouvait se vanter d'être l'un des seuls hommes à connaître jusque dans leurs moindres détails les expressions du visage perpétuellement masqué de Cortés. Par exemple, la nuance entre l'agacement, la colère et la furie. Zeytin se serait bien passé de ce privilège.
« Du bien ?» insista Cortés. « Ça nous fera du bien si tout se déroule comme prévu en France et à Hong Kong. Toujours aucune nouvelle de Morad. »
Zeytin hocha la tête. « On descend. On va bientôt savoir. »«
J'ai un sale pressentiment. J'aurais jamais dû laisser Morad y aller seul. J'aurais dû t'envoyer, Zeytin. »
« Morad est doué. Il piste Ikabi, Serval et Pareya. Il fera ce qu'il faut. » Des lumières dans l'habitacle clignotèrent, signaient qu'ils devaient attacher leur ceinture.
« Et Hong Kong ?» reprit Cortés. « Des nouvelles de Hong Kong ?»«
Pas plus. Béchir contrôle la situation. Il a trouvé un gamin débrouillard à ce qui paraît. Et qui parle turc en plus. Il liquidera le gosse dès qu'il lui aura refilé le morceau de poutre. »
La figure de Cortés s'éclaira presque d'un sourire. Zeytin pouvait aussi se vanter d'être le seul à connaître les expressions du visage de Cortés lorsqu'il souriait. Un privilège plus rare encore. Rare et éphémère. Cortés s'était aussitôt refermé.
Les histoires de Néphilim rendent les adventistes chinois nerveux. Espérons que cette fois-ci aucun grain de sable ne viendra se fourrer dans nos affaires.
Il marqua une brève pause avant de poursuivre.
Mais en attendant de leurs nouvelles, on ne va pas rester les bras croisés. Nous savons qui nous devons chercher maintenant. Le rapport Roskovitsky décrit parfaitement ces bergers kurdes, les confidents directs de ce vieil Enoch. Grand, très grand, de longs cheveux noirs et des yeux étrangement gris. Il ne devrait pas être difficile d'en repérer quelques spécimens.